Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. En Fédération Wallonie-Bruxelles, environ 4700 enfants sont confiés chaque année à une famille d'accueil. Parmi eux, trois quarts sont accueillis par des grands-parents, des oncles, des tantes. Le dernier quart est confié à des familles d'accueil externes. Et pourquoi pas vous? Une grande campagne famille d'accueil a en tout cas été lancée il y a quelques semaines. Objectif, expliquer clairement en quoi consiste cette démarche et encourager les familles à franchir le pas. Être famille d'accueil, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les difficultés mais aussi les richesses de cette démarche? Nous allons en parler ce soir avec nos deux invités. Tout d'abord Martine de Rivière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe du service laïque de placement familial, la famille d'accueil Odile Henry. Et à vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Rachid Madrane, ministre de l'aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Monsieur Madrane, c'est vous qui avez lancé cette grande campagne de recrutement de familles d'accueil. Mm-hmm. Pour quelles raisons?
Tout d'abord, pour mieux faire connaître l'accueil familial et essayer d'inciter plus de gens à se porter candidat à l'accueil d'un enfant, un enfant en difficulté ou en danger, parce qu'on manque de familles d'accueil en communauté française et parce que, depuis mon entrée en fonction, j'ai considéré que l'accueil familial devait être une priorité en communauté française, parce que même s'il existe des services d'hébergement qui font un travail remarquable, je pense que dans certaines situations, lorsqu'on doit extraire momentanément un enfant de sa famille pour une série de raisons, je pense qu'il est moins traumatisant pour un enfant en difficulté d'être dans un univers qui est quand même un univers familial. Et ça n'enlève évidemment rien le travail magnifique qui est fait en institution par les professionnels, mais je pense que c'est une formule qui est humainement meilleure pour les enfants. Par ailleurs, vous devez savoir que aujourd'hui en communauté française, simplement le fait de renouveler le nombre de familles d'accueil, rien que pour renouveler ceux qui sortent du dispositif, il faudrait qu'on trouve 50 familles à peu près par an, c'est beaucoup. Et donc on a décidé de lancer cette campagne pour rappeler d'abord que ça s'adresse à tout le monde, il n'y a pas de profil type de famille. Tout le monde peut demain être famille d'accueil, ça peut être une famille monoparentale, ça peut être homoparentalité, c'est très très ouvert. Et on a expliqué que même si toutes les familles, c'est jamais un long fleuve tranquille, je suis issu d'une famille nombreuse, je suis papa d'une petite fille, je sais combien c'est pas simple, mais néanmoins c'est quand même une aventure humaine extraordinaire. Je trouve que les gens qui sont prêts à donner de l'amour et qui sont prêts à encadrer ces enfants, quelque part c'est les aider à grandir, voilà. Et je trouve que fondamentalement dans le secteur de l'aide à la jeunesse, c'est une des pistes que vraiment je souhaite développer, parce que je pense qu'aujourd'hui l'alternative famille d'accueil, c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en valeur. Malheureusement, je me suis rendu compte que peu de gens connaissaient le dispositif, et donc il fallait à la fois moderniser, il fallait faire connaître, et donc, on va pas rentrer dans les détails de la campagne, mais en gros, c'est une nouvelle charte graphique, ce sont des prospectus, des affiches, un nouveau logo, un site Facebook, un nouveau site internet, www.familledaccueil.be. Bref, c'est autant d'instruments qui permettent de valoriser le fait d'être famille d'accueil. J'ai donc envie à la fois de faire connaître cette fonction, j'ai envie de dire, d'être parent d'accueil, famille d'accueil, et aussi de valoriser la fonction de famille d'accueil.
Alors, on va reprendre les étapes, on va dire chronologiquement. Si des enfants sont confiés à une famille d'accueil, c'est d'abord parce qu'ils ont été retirés de leur famille biologique. Alors, évidemment, les raisons sont diverses, mais est-ce qu'on peut donner quelques exemples de raisons pour lesquelles on va retirer un enfant de sa famille biologique?
Oui, bien sûr. Un enfant sera éloigné de sa famille biologique, par exemple, quand les parents ont des difficultés psychologiques importantes. Je dirais même plutôt des difficultés d'ordre psychiatrique. Quand les parents ont des difficultés sur le plan d'une assuétude, l'alcool, les drogues, toutes des difficultés qui les empêchent de s'occuper de leur enfant au quotidien. Donc, il peut y avoir de la négligence, il peut y avoir de la maltraitance. Et comme vous l'avez dit, les raisons peuvent être diverses et multiples. Mais l'idée, c'est que le parent ne peut pas s'occuper de son enfant au quotidien.
Et du coup, on a alors trois types d'accueil. Donc il y a l'accueil d'urgence, l'accueil de courte durée et puis l'accueil à moyen et long terme. Quelles sont les différences entre les trois types d'accueil? Est-ce qu'on recherche plus particulièrement des familles pour un type d'accueil particulier ou c'est pour tous les types d'accueil?
Ben, je pense qu'on recherche des familles pour tous les types d'accueil, effectivement, que ce soit urgence. L'urgence, donc, c'est une durée de 15 jours à 45 jours maximum. Le court terme, c'est 3 mois à 9 mois maximum. Et ce qu'on appelle le moyen-long terme, c'est toujours un placement qui est prononcé pour un an, mais qui est renouvelable un certain nombre d'années, et si nécessaire, jusqu'à la majorité de l'enfant. Et donc, effectivement, en fonction des difficultés rencontrées par la famille et de la durée d'éloignement nécessaire, on se tournera plutôt vers de l'urgence. Du court terme ou du moyen-long terme, mais on a besoin de familles d'accueil pour tous ces projets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme Monsieur le ministre l'a souligné, n'importe qui, enfin, tous les profils de famille peuvent être familles d'accueil, et les projets peuvent effectivement plutôt correspondre en fonction de son moment de vie. Des personnes plus âgées vont peut-être pouvoir plutôt faire de l'urgence ou du court terme que du moyen-long terme, mais tout le monde peut développer un projet d'accueil.
Alors, parmi les mesures qui ont été prises en parallèle, on va dire, de cette campagne, il y a notamment la réduction du délai de sélection des familles. Donc, on va passer de 9 mois à 6 mois. C'était important pour vous, Monsieur le Ministre, peut-être pour essayer de ne pas décourager des familles
Tout à fait. L'idée, c'était de dire qu'il faut rendre attractive la fonction de parent d'accueil. C'est-à-dire que c'est déjà compliqué de trouver des familles d'accueil si, en plus, au niveau administratif, on leur compliquait la vie. C'était franchement pas quelque chose d'attrayant. Donc l'idée, c'était de dire, il faut qu'on réduise les délais de sélection des familles. Donc vous l'avez dit, on est passé de 9 mois à peu près 6 mois. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Mais par ailleurs, il y a toute une série de procédures administratives qu'on a simplifiées. Par exemple, chaque fois qu'un enfant, par exemple, était placé en famille d'accueil, imaginez, il y avait, je sais pas, il a un ami ou une amie qui voulait l'inviter à un petit week-end à l'étranger ou même ailleurs, il fallait qu'on ait chaque fois l'autorisation des parents biologiques. Donc c'était parfois très très compliqué pour des petites décisions du quotidien, c'était compliqué d'obtenir ça. Et donc là, on s'est dit, on va simplifier, on va faire en sorte qu'il y ait la signature d'un seul document qui est valable un an pour certaines démarches. Et donc ça veut dire que dès le départ, on demande l'autorisation des parents, c'est valable un an et on le renouvelle chaque année. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est quand même important de le rappeler. Être famille d'accueil, c'est pas adopter un enfant. C'est-à-dire que l'idée, à un moment donné, c'est que l'enfant retourne en famille. C'est-à-dire, temporairement, on le prend en charge. Comme l'a dit Madame Rivière, ça peut parfois être des longs moments. Ça peut aller jusqu'à la majorité dans certaines situations. Mais l'idée de départ, la philosophie générale, c'est qu'il y a une famille biologique qui, à un moment donné, dans le parcours de l'enfant, a des difficultés qui peuvent être multiples. Pendant ce moment-là, on essaye de trouver une solution alternative au placement en institution. Donc ça, c'était important que pour les familles, les choses soient simplifiées. Par exemple, d'autres choses très concrètes, mais Madame Rivière en parlerait sans doute mieux que moi, pour des problèmes du type l'enfant doit porter des lunettes, il doit aller chez l'ophtalmo, il doit aller chez l'orthodontiste, etc.
Pour tout ça, avant, il fallait l'accord des parents biologiques.
Il fallait pas l'accord des parents biologiques, mais il fallait en tout cas l'autorisation des services, et puis au-dessus des services de l'administration. Et ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai voulu renverser tout ça, et on est parti sur un principe qui est très simple, qui est le principe de confiance. C'est-à-dire, je fais confiance aux service et je fais confiance aux familles et le contrôle se réalise a posteriori. Du coup, ça simplifie pour les parents, c'est-à-dire que si l'enfant à un moment donné doit porter des lunettes, évidemment, il va chez l'ophtalmo, il ne faut pas demander l'autorisation préalable pour pouvoir acheter. Madame en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, mais l'idée, si vous voulez, c'était simplifier au maximum la vie des familles d'accueil pour rendre le fait d'être famille d'accueil quelque chose d'attractif. Ça doit rester une aventure humaine. Ce sont des gens qui ont, et des parents, des familles qui ont beaucoup de choses à donner à cet enfant. Et donc, pour pouvoir les attirer, il fallait évidemment qu'on leur simplifie la vie. C'est déjà si compliqué d'élever un enfant. On n'allait pas en plus rajouter des contraintes. Donc voilà, je trouve que le principe de confiance était la formule qui répondait le mieux aux séries de demandes de parents que j'avais rencontrées. Et on a la chance d'avoir vraiment des services qui font un travail exceptionnel, qui sont là aussi pour encadrer les familles. C'est-à-dire, on ne place pas un enfant en famille famille, puis on dit aux parents, débrouillez-vous. Non, ils sont encadrés par des services, par des professionnels, des psychologues, des assistants sociaux, etc., qui sont là aux côtés des parents pour apporter les réponses aux éventuels problèmes qu'ils pourraient rencontrer.
Alors, c'est vrai qu'un des points importants que vous avez dit, c'est qu'il faut bien distinguer l'accueil de l'adoption. Ça, c'est des choses, enfin, c'est quelque chose auquel vous faites attention quand vous êtes dans la procédure de recrutement, Madame de Rivière ?
Oui, bien sûr. C'est un point essentiel, effectivement, puisque dans l'accueil en famille, le lien avec les parents est important et on travaille vraiment pour que le lien puisse être maintenu. Alors, suivant les situations, ça peut être très variable. Il y a des enfants qui voient leurs parents de façon régulière, d'autres qui les voient moins souvent. Mais enfin, l'idée du lien avec le parent est essentielle. Et si la situation du parent s'améliore et que si la situation le permet, l'enfant pourra retourner vivre avec ses parents. Mais même s'il ne retourne pas vivre avec ses parents, il peut le voir régulièrement. Donc, par rapport à l'adoption, c'est évidemment une démarche tout à fait différente. Et on travaille tout ça avec les familles qui se présentent comme candidats auprès de nos services.
Mais du coup, quels sont vraiment les critères de sélection, si on peut les appeler comme ça ? Est-ce qu'il y a une liste de critères ?
Alors, une première chose, et Monsieur le ministre l'a bien dit, c'est vrai que c'est une démarche qui peut être faite par vraiment des profils de famille très différents. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'il y a eu une évolution qui est l'évolution des familles actuelles, c'est-à-dire qu'elles sont très diversifiées en termes de composition familiale. Ça peut être des personnes seules, des couples avec enfants, sans enfants. Donc là, c'est une première chose. Tout le monde peut s'adresser à un service de placement. Alors après, les critères, ce sont vraiment des critères de dynamique familiale aussi, de motivation. On voit lors des entretiens qu'on fait avec les familles candidates de quelle manière ils imaginent intégrer l'enfant dans leur famille, quelle sera sa place, comment ils imaginent son évolution. Évidemment, les familles, si elles ont d'autres enfants, on doit tenir compte effectivement des autres enfants, de la manière dont ils appréhendent l'arrivée d'un enfant dans leur famille. Donc tout ça est aussi travaillé durant tous ces entretiens de sélection.
Alors, je vous propose d'écouter justement un témoignage d'une famille d'accueil. Et ce que vous dites est important parce qu'ici, dans cette famille, on sent qu'il y a vraiment une démarche collective où les enfants biologiques de la famille ont aussi été impliqués. Donc, nous avons rencontré Fabienne et Didier Henry, mais aussi donc leurs deux enfants, Manon et Corentin. Donc, cette famille, elle accueille depuis 7 ans maintenant un petit garçon que nous allons appeler Dorian. Dorian, donc, a été retiré de sa famille biologique à 6 mois. Il a été accueilli dans cette famille d'accueil quand il avait 2 ans et demi. Donc on est ici dans de l'accueil vraiment à long terme. On va écouter leur témoignage et vous réagirez juste après.
Je m'appelle Corentin, je suis le grand frère de Dorian. Par rapport à l'arrivée de Dorian, ça a été quelque chose qui a été longuement réfléchi en famille. Donc c'est un projet d'accueil qu'on a établi ensemble. C'est toute cette démarche, cette réflexion qu'on a eue ensemble, où chacun a pu dire ce qu'il voulait dire, chacun a pu dire ses craintes, ses envies. Je pense que ça a fait que ça s'est passé très, très sereinement, très calmement. Et ça s'est bien passé, tout simplement.
Je crois que la première chose vraiment qui est essentielle, c'est le désir d'enfant, le désir de jouer un rôle de parent par rapport à l'enfant. Et en aucune manière, je pense qu'il ne faut surtout pas démarrer ce genre de démarche avec une idée de faire, entre guillemets, une bonne action. Je crois que c'est vraiment ce besoin d'être parent par rapport à un enfant et de l'amener sur un autre chemin, effectivement.
C'est pas la situation de parents d'accueil qui est particulièrement difficile, mais c'est l'enfant qui est en souffrance. Et à ça, on a beau être averti, on a du mal à s'habituer à cette souffrance quotidienne qu'on voit et qu'on vit et avec laquelle il faut faire face.
Alors, je m'appelle Manon. Donc, je suis la fille aînée de la famille, la grande sœur de 2 frères maintenant. La crainte, elle n'est pas trop présente, parce qu'on s'est entre guillemets engagé à long terme. Donc, objectivement, il y a peu de chances qu'il s'en aille. Mais bon, s'il venait à s'en aller, c'est sûr qu'on garderait un lien, quoi. On ne perdrait pas. Je ne pense pas qu'on peut perdre comme ça un lien qui s'est construit au fil des années aussi et qui est quand même assez fort, quoi.
Tous les rendez-vous qui rythment une famille d'accueil avec SAJ, avec le service de placement, est un rappel de cette fragilité dans la durée.
Au quotidien, non, on n'y pense pas. Ce serait vraiment trop douloureux d'y penser chaque jour. Mais oui, quelque part, ça reste présent et possible. Donc voilà, on y pense, on essaye de s'immuniser par rapport à ça, de penser à lui surtout. Quoi. Je pense que s'il devait partir, je voudrais que ça soit pour lui. Enfin, je veux dire que ça soit pour un meilleur pour lui. Donc sans ça, ce serait vraiment difficile. C'est un petit soleil dans notre vie, quoi. C'est pour nous l'occasion de revivre une situation de parents. Et Dorian, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de difficultés, mais c'est une force. Enfin, il a beaucoup de force en lui, une force de vivre, de vaincre tout ça. Beaucoup d'humour, beaucoup d'énergie et toujours plein d'amour à donner.
C'est très difficile à expliquer avec des mots, mais pour moi, l'essence même d'une famille d'accueil, c'est d'abord d'être parent, c'est tout.
Parfois, on nous dit, enfin, des amis ou des collègues nous disent « Ah, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien ce que vous faites. » Et moi, ça me choque. Enfin, on est juste parents, quoi.
Alors, Rachid Madrane, une réaction par rapport à...
Je suis très touché par ce que j'entends. D'abord, j'ai bien aimé « On n'est pas dans la charité ». On n'est pas dans la charité. Je trouve que, il a dit, on est juste des parents. Donc, oui, un parent, des parents, ont un objectif. C'est d'accueillir un enfant et de l'aider à grandir. Et au fond, c'est ça, ce qu'ils disent. Et je suis content d'entendre ça parce que ça me conforte dans l'idée que on était dans le bon quand on a lancé la campagne. C'est-à-dire, on a fait une campagne qui est fondée sur ce que moi j'appelle des témoignages de témoins du vécu. C'est-à-dire des enfants qui ont vécu eux-mêmes le placement en famille d'accueil ou des familles qui ont accueilli. Et c'est le ton juste. C'est-à-dire que, voilà, on le vit au quotidien. En plus, quelle grande modestie, nous sommes juste des parents, voilà, on ne sommes pas dans la charité, il n'y a rien d'exceptionnel, quand d'autres personnes s'extasient, ils disent nous simplement ce qu'on fait, c'est on donne de l'amour, on en a à donner, donc je suis vraiment heureux, parce que ça me conforte dans l'idée que pour une première campagne, c'était important. Et c'est aussi la volonté qu'on a de valoriser cet engagement et de, quelque part, valoriser ses parents. C'est pour ça, d'ailleurs, que le 15 mai, on a fait du 15 mai la journée des familles d'accueil. C'est-à-dire qu'on veut, quelque part, les fêter et leur permettre de se réunir, de se regrouper pour mieux faire connaître cet engagement qui est un engagement à la fois personnel, mais je suis sûr, à force d'avoir entendu les familles d'accueil, je suis sûr que ça contribue à renforcer les liens au sein même de la famille biologique, c'est-à-dire par rapport aux autres enfants, par rapport aux parents, les liens entre les enfants et les parents, ils sont tous, je crois, beaucoup plus proches les uns des autres, et je crois que c'est une aventure presque collective, quoi. Et vraiment, moi, je suis touché par ce que je viens d'entendre, et je me dis qu'on a bien fait de lancer cette campagne comme ça.
Mais c'est vrai que cette famille nous disait aussi, ça nous a posé... Enfin, on s'est du coup posé la question de qu'est-ce que c'est effectivement être parent. Parce que, et ils se sont dit, voilà, on a réfléchi à cette relation parent-enfant grâce à ce projet. Alors on voit, il y a évidemment beaucoup de points positifs. Il y a évidemment aussi quelques difficultés. Donc on voit ici que la maman parle de souffrance, de gérer cette souffrance de l'enfant. Il y a aussi la crainte, j'imagine, surtout dans des placements... longue durée, c'est que quand même l'enfant s'en aille, même si on sait très bien qu'on n'est pas dans un projet d'adoption, cette crainte existe. Comment vous la gérez, vous, au quotidien avec les familles, Madame de Rivière ?
Ben, tout d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, les services de placement familial sont là pour accompagner les familles pendant l'accueil et donc les soutenir à travers toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer avec l'enfant. On parlait de souffrance. C'est vrai que les enfants peuvent être en souffrance par rapport à leur histoire. Ils arrivent en famille avec déjà un certain bagage, et suivant leur âge, le bagage est plus ou moins important. Et donc, il faut pouvoir aider les familles, soutenir l'enfant. Le soutenir, ça peut être de diverses manières. C'est vrai qu'on les rencontre régulièrement, mais on peut aussi être amené à envoyer l'enfant... pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien thérapeutique extérieur. La question que vous posiez par rapport aux craintes des familles de l'éloignement de l'enfant une fois qu'il est resté un certain temps chez eux, effectivement, c'est une crainte qui peut même décourager les familles de devenir famille d'accueil. Alors j'ai envie de dire d'abord l'aspect essentiel, c'est évidemment la continuité. C'est-à-dire que je crois que ce qui est important, c'est que les familles apportent quelque chose à l'enfant, quelle que soit la durée de ce placement, et que surtout... Un enfant ne retourne pas du jour au lendemain chez ses parents sans que ce soit préparé. S'il retourne chez ses parents, et ça, ce n'est le cas que dans un certain nombre de situations, s'il retourne chez ses parents, c'est préparé et avec l'idée qu'il y ait une continuité dans le lien aussi avec la famille d'accueil.
Donc, ce lien peut continuer à exister.
Oui, même si l'enfant retourne chez ses parents. Alors bien sûr, tout ça est travaillé dans un premier temps. Le lien avec la famille d'accueil, il est peut-être un petit peu plus réduit parce qu'il faut vraiment que l'enfant retrouve sa place chez ses parents, se réinstalle chez ses parents et ne soit pas encore avec la tête toujours en famille d'accueil. Donc tout ça est réfléchi, mais c'est vraiment travaillé avec les familles. Et là, j'ai envie de dire avec les deux familles, c'est-à-dire la famille d'accueil et les parents chez qui l'enfant retournerait.
Et c'est important du coup que les deux familles soient en contact. Il y a un contact qui est élaboré au niveau des services d'aide à la jeunesse ou des placements familiaux?
Alors, c'est toujours le service de placement familial qui est l'intermédiaire. J'ai envie de dire, on joue le rôle de tiers parce que c'est important, effectivement. C'est-à-dire que l'idée, quand un enfant va en famille d'accueil, surtout quand c'est du moyen-long terme, c'est vraiment qu'il a besoin d'un endroit sécurisant. Ou s'il a rencontré des difficultés avec ses parents ne soient pas à le solliciter tous les jours de sa vie quand il est en famille d'accueil. Donc, on ne met pas les familles d'accueil en contact avec les parents de l'enfant quotidiennement. Quand c'est un enfant qui va en famille d'accueil sélectionnée, comme nous le disons, c'est-à-dire des familles d'accueil qui se présentent dans nos services. Quand c'est de l'intrafamilial, évidemment, c'est encore bien différent. Mais donc, les familles d'accueil ne sont pas en contact direct avec les parents de l'enfant de façon régulière, mais elles sont amenées à rencontrer les parents de l'enfant de façon plus ponctuelle. Je vais dire, par exemple, lors d'une rencontre, la famille d'accueil peut amener l'enfant dans nos services pour pouvoir rencontrer ses parents. On sait que les placements se font via l'intermédiaire des mandants, donc le service d'aide à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les services de protection judiciaire. Et donc, il y a aussi des rencontres minimum annuelles, je vais dire, qui se font. Et là, tout le monde est réuni. Alors, les rencontres se font, comme je le disais, de façon tout à fait ponctuelle. Mais sinon, nous sommes là pour jouer tiers aussi.
Par ailleurs, ce qu'il faut aussi... je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est qu'on évite à tout prix le conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver avec des enfants qui, à un moment donné, sont là entre deux chaises, à savoir vers qui se tourner. Donc, la famille d'accueil, ça a été dit, elle apporte un cadre familial stable, un cadre familial sécurisant, vous l'avez dit. Et au fond, c'est s'engager à remplir une mission dont la durée est incertaine. Mais dans un cadre qui est un cadre familial protecteur pour l'enfant. Je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'il est très important qu'on garde toujours à l'esprit qu'à un moment ou un autre, l'objectif final de l'aide à la jeunesse, c'est que l'enfant, l'idéal, c'est que l'enfant puisse retourner en famille. C'est ça l'objectif final de l'aide à la jeunesse. Et on travaille d'ailleurs toujours avec deux grandes aides. Il y a ce qu'on appelle l'aide consentie, l'aide volontaire. Et là aussi, même quand on place en institution, l'objectif, c'est pas que l'enfant reste en institution, c'est qu'à un moment ou un autre, il puisse revenir en famille. Et donc, on travaille aussi avec les familles. Comme ça a été dit, on prépare le retour. Parfois, les situations sont trop problématique, et donc on va s'engager vers, ici en l'occurrence, un accueil familial plus long. Mais l'objectif privilégié de l'aide à la jeunesse, c'est d'ailleurs quelque chose qui est explicitement spécifié dans la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est de toujours privilégier l'accueil familial, toujours. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où nous sommes dans un pays qui a vraiment, qui est très très en avance sur l'aide à la jeunesse par rapport à d'autres pays. J'ai été voir en France, par exemple, l'accueil familial. Ils l'ont professionnalisé. On rémunère les familles. Ici, c'est pas comme ça.
Ici,
il y a des moyens financiers.
La rémunération, comment ça se passe pour être un peu
concret?
On pourra
en parler, mais il y a des rémunérations, les allocations familiales. De l'argent qui est donné, si vous voulez, aux familles pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais on n'est pas dans un rapport, si vous voulez, où les centres auraient des employés qui sont les familles. C'est un peu comme ça en France. Nous, on n'est pas du tout dans ce système-là. C'est-à-dire que les familles s'engagent. Elles ont évidemment des défraiements, etc. Ils reçoivent de l'argent. Tous les frais connexes pour l'éducation de l'enfant sont évidemment pris en charge par le secteur de l'aide à la jeunesse via les services. Mais on n'est pas dans un rapport d'argent entre une personne qui exerce la profession de famille d'accueil, comme c'est le cas dans d'autres pays. On a un autre modèle, et je trouve que notre modèle est un modèle qui fonctionne. Simplement, aujourd'hui, en communauté française, c'est une fonction, un rôle plutôt, qui est malheureusement insuffisamment connu. Et donc c'est pour ça que c'est une première étape, et j'insiste, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est que il faut que cette campagne soit pérenne. C'est-à-dire, on va pas faire un one-shot, faire une fois une campagne qui a donné d'ailleurs de résultats et qui en donne. Il faut qu'on puisse la pérenniser, que chaque année on puisse refaire des campagnes pour resensibiliser. Et j'espère que dans les années qui viennent, le nombre de familles d'accueil sera beaucoup plus important. Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé.
Vous dites qu'elle a déjà porté ses fruits. Est-ce qu'on a déjà une idée un peu de, si, en tout cas, s'il y a des familles qui se sont montrées intéressées, si on a une idée.
J'ai quelques chiffres, mais bon, il faut les prendre avec des pincettes, puisque voilà, la campagne a été lancée il y a 2 mois et demi à peine, et comme on sait que la durée de sélection, même si on l'a réduite, elle est de 6 mois. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'en 2 mois et demi depuis le lancement de la campagne, à peu près 150 familles, 150 personnes se sont adressées à ces services en 2 mois et demi. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2014, sur toute l'année 2014, c'est 326 personnes qui se sont adressées au service. Donc là, on est sur 150, 326. Donc je trouve que le résultat est pas mal. Ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a vraiment une réaction positive. Mais on constate aussi des moments où il y a plus de demandes. Par exemple, je sais pas, quand il y a eu un film qui est paru, quand on approche des fêtes de Noël, il y a des tas de gens qui, à un moment donné,
se sensibilisent.
C'est une démarche qui est mûrie. C'est pour ça qu'il faut raccourcir évidemment le délai, mais c'est quand même quelque chose qui se prépare, et c'est la raison pour laquelle on a la chance d'avoir des services qui entourent ces familles, qui les encadrent. Et puis parfois, expliquer aussi, je le rappelle parce que c'est important, qu'être famille d'accueil, ce n'est pas adopter un enfant. Donc certains sont dans un projet d'adoption, ce n'est pas tout à fait ça. À un moment, un jour, l'enfant volera de ses propres ailes. Et en général, d'ailleurs, ils gardent parfois même le contact avec les familles, parce que j'en ai connu qui m'ont expliqué qu'ils ont gardé. Mais peut-être que Madame Rivière...
Oui, les contacts peuvent se garder encore au-delà, par exemple, de 18 ans. Parce qu'à 18 ans, ça s'arrête. On va dire le service d'aide à la jeunesse, a priori, ça s'arrête. Mais ça, on peut quand même garder un certain contact après. Est-ce que dans les exemples que vous avez vécus...
Oui, tout à fait. D'abord, effectivement... Sur le plan légal, les familles ne sont plus reconnues comme familles d'accueil au-delà de 18 ans, mais il peut y avoir encore un soutien du jeune jusqu'à 20 ans. Mais les aides financières, ce qu'on appelle les subventions journalières, puisqu'on a bien dit, ce ne sont pas des familles professionnelles, ce sont des familles qui sont bénévoles, mais qui bénéficient d'une aide financière. Mais effectivement, au-delà, le jeune peut continuer, il peut rester dans sa famille, et les contacts perdurent. Quand c'est des jeunes qui ont grandi dans la famille, ben, ils font partie de la famille, tout simplement.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission, mais si on devait vraiment reprendre les quelques points forts, on va dire qu'est-ce que ça apporte pour une famille, qu'est-ce que ça apporte pour un enfant d'être accueilli dans une famille d'accueil, et qu'est-ce que ça apporte à une famille, si vous devez juste donner un ou deux exemples chacun.
Oh, mais... mais je pense que la famille dont on a entendu le témoignage l'a très bien dit. Je crois qu'il y a le mot amour qui revient dans les deux sens. Je pense que pour l'enfant, ça apporte vraiment un lieu où il peut avoir un attachement privilégié avec des personnes proches de lui, et aux familles, c'est l'amour dans les deux sens, encore une fois, le fait d'aider à faire grandir un enfant.
Moi, je pense que accueillir un enfant, c'est l'aider à grandir, comme ça a été dit, aider un enfant à se construire ou se reconstruire, parce que parfois on a des enfants qui arrivent et qui sont dans un parcours, parfois ce sont des enfants abîmés qui ont eu des parcours difficiles, et donc c'est une démarche qui est à la fois altruiste, généreuse, et qui est une démarche où j'aime beaucoup, moi, le mot donner de l'amour, quoi. Je veux dire, on est peut-être 2, 3, 4, 5, 6 fois plus parents avec d'autres enfants, et on est beaucoup plus frères et sœurs quand on accueille un enfant, et que voilà, on partage le cadre familial rassurant avec des enfants qui parfois n'ont pas connu, quoi, des univers familiaux qui sont comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de noble, c'est un geste très très noble. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment valoriser cette fonction. La société doit se rendre compte que grâce à ces familles d'accueil, on évite après des situations parfois très très difficiles quand les enfants grandissent et n'ont pas eu l'amour, parce que souvent quand on a affaire avec des enfants abîmés, on se rend compte que c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'amour durant leur prime jeunesse.
Alors, donc, il est temps de nous quitter, mais juste quelques informations pratiques importantes. Donc, le site internet lié à la campagne, c'est www.lesfamillesd'accueil.be, donc lesfamillesd'accueil.be. Un numéro de téléphone également, c'est le 02 537 81 55. 02 537 81 55. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver sur le site des témoignages, toute une série d'informations, des explications sur les démarches. Je donne aussi le site internet de la famille d'accueil donc du service de placement familial, la famille d'accueil Odile Henry, donc www.faoh.be. Alors Rachid Madran, Martine de Rivière, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci donc de nous avoir éclairés sur cette question et vous avez peut-être donné l'envie, je l'espère, à certains d'entre vous de se lancer dans l'aventure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.